Salut, c'est Justine. Si une espèce devait coloniser la Terre, moi je pense que ce serait des insectes, genre fourmis ou criquets.
J'avais noté exactement c'est la même chose, j'avais mis les insectes, ouais, genre les fourmis ou des trucs comme ça, parce que c'est imbutable en fait.
Bah oui,
ils sont là depuis tellement longtemps.
Point faible, trop fort.
Bah oui.
Eh bien, bienvenue dans le podcast Lectus. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la duologie Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas. Et on a fait trois. On a fait un épisode avec une série de trois, avec une série de quatre.
La tétralogie.
Et maintenant, c'est une série de deux. Comme ça, on finit la saison fantasy avec... je crois que c'est moi la recommandation.
Oui, cette fois. Et tu me l'as recommandé, ça fait quasi pile un an. Parce que tu me l'as recommandé juste avant que je parte au Japon. Et moi, je l'ai lu du coup dans l'avion, les deux.
Ok.
Donc, ouais.
Et oui. Et je me souviens, je l'avais eu en cadeau de Noël, je crois. Ma belle-sœur me l'avait offert. Et une très bonne surprise. C'est des cadeaux comme ça, on s'y attend pas. Et très très chouette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour en parler. Johanna, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé?
Oui. Alors donc, dans le tome 1 de Vaisseau d'Arcane, qui s'intitule « Les Hurleuses », on découvre le Grimark, où la magie peut foudroyer en un éclair. Donc les victimes de ces éclairs magiques, on les appelle les touchés, et ils sont plus jamais les mêmes parce qu'en fait, ils deviennent le réceptacle d'une énergie très puissante, et en échange, ils sont totalement dépossédés de leur esprit. Et en fait, dans ce premier livre, on va suivre Soph et Solal, son frère, qui va être touché justement par un de ces éclairs magiques. Et du coup, Soph, qui est une infirmière plutôt raisonnable et sans histoire, elle va tout risquer en fait pour le sauver et l'arracher aux griffes de Lédila. Donc c'est une fuite qui va les emmener aux confins du Grimark et surtout à la découverte de nombreux secrets dont il aurait mieux valu ne pas trop s'approcher.
Donc, on en parle plus longuement dans une partie entièrement spoil. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude.
Oui.
On se retrouve tout de suite. Alors, au début de ce tome 1, je trouve qu'on est directement plongé dans l'action. Puisqu'on est avec Soph et Solal qui sont en train de s'évader de la ville de Myrvald, là où ils ont toujours vécu. Et donc on suit leur évasion et ils débouchent en fait, ils arrivent, on est pratiquement au sortir des égouts.
Oui c'est ça, parce que du coup la ville de Myrvald, ça ressemble, c'est une ville qui est en hauteur, c'est ce qu'on nous dit, avec beaucoup de créneaux, etc. Et d'ailleurs, on n'a pas dit pourquoi il s'échappe, c'est parce que Solal, donc, comme on l'a dit dans le résumé, il s'est fait foudroyer,
ouais.
Le pauvre. Donc en fait, il a perdu son esprit, et sauf que les touchés au royaume du Grimark, on les récupère pour s'en servir, pour alimenter, c'est vraiment des batteries. Et en fait, Sophena, elle veut pas que son frère soit pris, donc effectivement, il s'échappe. Et on les trouve, en bas de la cité, elle s'est échappée... Après avoir collé un bon pain dans la tronche à son fiancé, qui est aussi capitaine du car. Le car
de la
qui
garde,
est de la garde de la ville.
Oui, c'est ça. Et puis on en apprend déjà un peu plus. Enfin, ça pose les bases de ce qu'est la magie, ce qui est un toucher. En fait, on apprend qu'il y a des orages de mana qui parcourent le Grimark. Donc c'est la province dans laquelle Sophena et Solal habitent. Donc les villes sont protégées par des grands écrans de cristal.
Ça fait des gros terrariums, en
oui,
fait.
Oui, c'est ça.
Ça fait le même principe.
Qui s'ouvrent et se referment selon qu'il fait beau ou moche, pour se protéger des orages de mana. Donc là, il y a un orage de mana qui s'approche, on apprend. Mais c'est bizarre parce que Solal, il a été touché et les écrans étaient ouverts, mais l'orage n'était pas encore là.
Oui, donc on nous dit que ça peut arriver qu'il y ait une décharge isolée qui tombe. C'est la faute à pas de chance. En sachant que les orages de mana, en fait, c'est de la pluie magique. Et du coup, si tu te prends une averse, ça te...
Comment dire ? Ça te transforme.
Ouais, ça te transforme. Donc, globalement, il vaut mieux pas que tu te prennes une saucée. Voilà.
Clairement. Il y a un peu ça marche un peu comme de l'alchimie. Enfin, ça, on l'apprend dans les...
Ouais.
Surtout dans le tome 2, je trouve. Mais effectivement, la matière se transforme. Vaut mieux effectivement de ne pas être touché par ces orages de mana ni par la magie. C'est quelque chose qui, au naturel, est nocif, mais que, du coup, les habitants de la province ont appris à maîtriser. pour bah, justement, comme tu disais, s'en servir comme batterie pour alimenter. Qu'est-ce qu'ils alimentent déjà? Je crois des usines, des trains, des ascenseurs.
Ouais, bah, tout ce qui a besoin d'une énergie, ce qu'ils appellent l'énergie arcanique, donc qui est produite globalement par les touchés, et parce qu'en fait, ils ont une grosse quantité d'arcanium à l'intérieur d'eux. Et du coup, voilà, ça en fait des batteries ambulantes qui sont bien pratiques. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du Grimark. Ça, on nous le dit quasi dès le départ. Et du coup, on retrouve vraiment Sofena et Solal qui ont traversé les égouts pour s'enfuir, puisque bah, en fait, le capitaine Magnus, qui est le fiancé de Sofena, et ben en fait, il venait pour récupérer Solal. Donc, bah, effectivement, Sofena, elle s'est dit, bah, je vais pas lui laisser mon frère, donc ils se sont enfuis. Sauf que, comme l'a dit Justine, il y a un orage, un gros orage de mana qui est annoncé, et le problème, c'est que si on est dehors sans protection,
Il y a des
ben
risques.
voilà, il y a des risques. Mais heureusement, elle peut compter sur un personnage qui est un peu son mentor, qui est le
Oui.
docteur
Le
Merovée.
docteur Mérovée, avec qui, donc, Sofena, elle est infirmière. Et donc, elle travaille à l'hôpital.
De Mirval.
Oui, de Mirvald, oui. Et donc, c'est un peu son superviseur. Et donc, elle va pouvoir communiquer. Alors, j'imagine un peu. Enfin, elle parle d'un dystographeur. Mais je
Ouais.
crois que c'est l'équivalent du. Comment on appelle ça?
Moi, j'ai trop vu ça comme, tu sais, quand tu fais avec les calculettes à l'ancienne, là où tu faisais tes calculs avec le petit rouleau, là. Pour
Oui, un
moi, je trouve que
peu.
ça fait ça, mais
Ok.
en version montre, quoi, et
Oui,
puis ils
oui,
s'envoient des messages.
oui. Télégramme, c'est le mot que je cherchais.
Oui, c'est un peu ça,
Un
ouais,
peu en mode télégramme.
effectivement. Mais de poche.
C'est ça. Donc elle lui envoie un petit message et il va la retrouver sur les remparts et puis bah voilà, il va lui donner de quoi
Survivre.
de quoi oui, enfin survivre.
Enfin.
Ouais, des quelques rations et des vêtements de rechange parce que a priori ça sent pas trop bon.
Non.
Et donc ils vont passer voilà, leur voyage débute. Leur voyage débute, ils sont partis de Mirvald et on connaît pas exactement leur plan tout de suite, on va juste pour l'instant suivre leur parcours. Ils vont donc pour se protéger de l'orage qui arrive. Sauf elle a l'idée de passer donc la nuit dans une forêt auprès des pixies. Et donc voilà, on apprend que ce sont des insectes qui ont été un peu infusés à la magie, qui ne font qu'un. Ben, ils ont une conscience commune.
Oui, ils sont pas encore tout à fait modifiés parce qu'on dit que c'est le stade larvaire entre guillemets des fées. Donc et les gens s'en approchent pas trop parce que bah si elles te touchent visiblement, ça peut aussi te transformer, mais faute de meilleur choix parce que de toute façon ils n'ont pas d'abri. Bah, ils décident d'aller voir les pixies et de demander si bah, elles peuvent les protéger, quoi. Donc il y a une partie un peu peu ragoûtante où du coup ils passent la
Ça
nuit.
grouille
Voilà,
partout.
c'est ça. En échange de la chaleur corporelle de Soph et Solal, du coup les pixies acceptent en fait de les protéger.
Et on les retrouve bah, pareil, on continue un peu le voyage. À partir de là, ils vont réussir à prendre un des grands arcanorails qui parcourt leur province. Pour se diriger vers le nord. Parce que on va apprendre que alors ce sont des orphelins, Soph et Solal. Et a priori, ils ont perdu leurs parents, ils devaient avoir 9, 7 ou 9 ans, quelque chose comme ça, je
Oui,
crois.
ils étaient jeunes.
Ouais, ils étaient jeunes, mais il y a un cousin éloigné qui vivrait dans le nord, et donc leur but, ça va être de le rejoindre pour d'une part se cacher, et peut-être après partir ailleurs, mais bon, en
Oui,
tout cas.
là pour l'instant, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que donc dans le livre, les passages sont entrecoupés, surtout au début, avec un autre personnage qui va être très important, qui est celui de Nîmes. Nîmes, en fait, on le découvre. Comment dire? Bah, il va assister à un défilé de poissons crânes, qui est en fait une. Comment dire?
Alors, comment expliquer? En fait, dans les fonds marins, dans cet univers, il y a une civilisation de poissons intelligents
Oui,
qui
qui a
s'est,
muté à cause de l'arcane, ça
voilà,
on nous dit.
qui, voilà, tout à fait, et qui sont arrivés à la surface il y a à peu près 20 ans. Et dans des. Alors, ils appellent des aéroscaphes,
Ouais.
donc des gros, des aquariums sur pattes, en
Oui,
gros.
voilà, c'est ça.
Et donc, ils se promènent. Il y a une ambassade maintenant, donc sur Terre, au Grimark.
Moi, je voyais un peu ça comme, du coup, le château ambulant de Miyazaki, mais en version miniature.
Ok.
Je voyais un peu ça comme ça, parce qu'ils ont des pattes un peu araignées et tout.
Oui, c'est vrai.
Ça fait un peu cet effet-là, et du
Ouais.
coup, ils sont à l'intérieur dans de l'eau qui est très sombre, parce que ça reste le peuple des abysses. Donc,
Et il parle en clignotant.
Voilà, ils font des petites lumières, oui, ou ça peut être le poisson, tu sais, avec la lanterne, là, je me souviens plus du nom, mais pour moi, je voyais un peu ça comme ça.
Il n'y a pas trop de description physique d'ailleurs de ces
Bah, non.
poissons-crânes. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si ça correspondait à une espèce
Alors, j'ai
précise.
regardé, non.
Ok.
Non, non, c'est vraiment...
Ouais.
c'est du lore.
Ok.
Ça a été... Enfin, après, peut-être que j'ai mal cherché, mais en tout cas, là, la seule description qu'on a, c'est vraiment leur aéroscaf, en fait. Et du coup, Nîmes, en fait, il assiste à un défilé du peuple des abysses et notamment de l'ambassadeur du peuple des abysses qui s'appelle Lubado. Voilà, Nîmes, il est là pour le buter. Et il va y arriver. Donc, il tue l'ambassadeur du peuple des abysses. Donc, c'est comme ça qu'est introduit le personnage de Nîmes. Donc, on se dit effectivement que...
Un tueur à gages,
Voilà, c'est
un
ça.
assassin.
Exactement, mais on n'en sait pas trop. Donc voilà, et après on revient du coup sur toujours la fuite du coup de Solal et Sofena, qui partent, comme tu l'as dit, en direction de leur grand-oncle. Et il y a aussi une introduction qui est faite avec, je sais plus comment c'est amené dans le livre, mais du coup sur les orques. Dès le départ, il y a un petit... Il
Oui,
y a un
c'est un
passe...
des. Effectivement, bah, du coup, on a les humains, on a les poissons-crânes,
Ouais.
et au nord, donc, vivent dans les hurleuses.
C'est ça, qui sont des steppes glacées en
Oui,
fait.
voilà, la toundra. Donc, vivent des tribus d'orques, qu'ils appellent orchidiens aussi. Ils sont introduits par le biais. Alors, on sait que la grande majorité des tribus sont au nord, mais dans les villes, il y a ce qu'ils appellent les parias orques. Donc, qui seraient bah, des membres en exil ou exclus de cette tribu-là. Et en fait, ils servent dans les villes on les introduit comme ça,
Oui, c'est ça, ouais, je l'ai
à
noté aussi.
manger les cadavres
Ouais.
et à fertiliser le sol.
Mais c'est ça. Ouais, parce qu'ils attendent que les cadavres, du coup, de la ville de Myrvald soient bien faisandés pour aller casser la croûte. Et après, bah, du coup, les déjections servent à faire pousser des nuages, n'importe quoi. Pousser des plantes. Et on nous dit aussi qu'ils communiquent par nuages chimiques entre eux. Donc voilà, ils sont décrits bah, plutôt l'image qu'on se ferait d'un orque en vrai, hein, donc
Oui,
des grands
totalement.
géants à la peau verte.
Ouais, moi je voyais WoW, enfin les personnages
Ah oui, pareil,
de
pareil,
WoW.
la même. Bah, c'est vraiment comme ça qu'ils sont décrits, hein. Et donc on a ce petit passage pour nous introduire les orchidiens, et après on revient en fait du coup sur Nîmes, et c'est là où on va rencontrer
Le
ça.
reste des opérateurs.
Ouais, voilà, c'est ça, parce que du coup, on rencontre la duchesse Déoline de Marcan, qui est la personne qui, je sais pas comment,
Sponsorise.
oui, voilà, c'est un peu, ouais, c'est le sponsor de Nîmes, et c'est là où on apprend que du coup, Nîmes Vénokiste, de son nom de famille,
Oui, c'est Hieronymus, c'est ça?
Hieronymus, ouais, c'est ça,
Vénokiste.
Vénokiste, est un opérateur délégué aux affaires spéciales. Donc voilà, les affaires spéciales, c'est buter les gens. En gros, c'est ça. Hein. Donc voilà, et on nous explique un petit peu aussi que il y a des grosses tensions avec la Tofki, qui est le pays en fait frontalier du Grimark.
Oui, a priori, le Grimark faisait partie de l'empire
De Tofki.
de Tofki et y a eu, voilà, ils ont eu pris leur indépendance il y a de cela longtemps, hein, je crois une centaine d'années, mais il y a toujours effectivement des tensions entre eux.
C'est ça. Et du coup, en fait, Lubado, du coup, qui est l'ambassadeur abyssien qui s'est fait flinguer en fait par Nîmes, lui devait arbitrer les tensions entre les deux pays. Donc dès le début, on se dit, ah ok, donc ça a été fait encore, c'est une manipulation, un jeu de pouvoir, etc. Ça n'a pas été fait forcément au hasard. Et on nous dit aussi que y a la corporation Valois, qui est, tu sais, tout ce qui fait les armes, qui fournit, etc.
Ouais, des grands industriels, marchands d'armes.
Et ça, on nous dit, je sais plus exactement comment c'est tourné, mais qu'en gros, la duchesse, donc celle qui sponsorise Nîmes, elle veut que, je sais plus si elle veut tuer le responsable des industries Valois. Je me souviens plus, il y a tout un truc comme ça.
Oui, bah c'est oui, on apprend que le pays est vraiment corrompu de toutes parts. On sent ben, qu'au niveau des intérêts économiques et politiques, tout est lié, même au niveau de la justice, tout le monde s'achète, tout le monde complote. C'est vraiment, on apprend dans ce premier tome qui est un peu, s'adresse le tableau de la situation, on apprend un peu à naviguer entre toutes ces différentes strates de pouvoir, à savoir, voilà, qui est du côté de qui complote contre qui. Enfin, c'est un
Oui, là, il y a
peu un
vraiment. Moi,
jeu
j'ai
de.
bien aimé d'ailleurs cette partie où le tissu politique, il est vraiment. Enfin, dans l'histoire, il est très très bien fait. On comprend les enjeux. Il y a vraiment. Est-ce que je dévoile mes cartes ou pas? Je ne sais pas si je peux faire confiance, etc.
D'ailleurs, on est un peu omniscient, nous, en tant que lecteurs,
Oui.
on sait.
Et encore, parce qu'il y a
Pas
bons, y a des
surtout.
bons twists des fois.
Oui. C'est
Honnêtement.
l'un des points forts aussi du bouquin. Je trouve
Ouais.
qu'il y a des. C'est vrai qu'il y a des bons twists. Il y a des trucs qu'on sait. Par exemple, on sait que Nîmes, dès le départ, c'est un agent double. Il le cache à aucun moment.
Bah, en fait, moi, j'avais pas compris que c'était pas un agent double, mais qu'il avait un but qui était autre que celui
Oui.
qu'on lui avait donné, mais on sait pas quoi, en fait.
On sait pas quoi.
Et ça, par contre, du coup, c'est bien caché, parce que finalement, donc, il va voir la duchesse d'Eoline pour justement avoir un avis de mission qui est de retrouver Solal, le toucher. Donc, il manipule, en fait, la duchesse pour obtenir cet ordre de mission, qui lui sera bien utile d'ailleurs pour après. Et en fait, voilà, il veut vraiment retrouver le toucher. Parce qu'il dit à la duchesse que c'est apparemment la source d'énergie la plus puissante que Grimark pourrait avoir et que ça serait dommage de pas en fait la récupérer. Donc Déoline, elle lui dit, bah ok, vas-y, c'est bon, je te fais ton papier et tout. Et dans le même temps, il s'en va et on apprend que finalement, ça fait genre des années qu'il lui fait livrer de l'alcool pour la rendre accro et qu'en fait, 3 jours après, elle canne, quoi.
Ouais, il lui a versé un petit poison
Oui, voilà, c'était
dans
ça.
sa bibine.
Donc nickel, du coup. Nîmes, il se retrouve vraiment les mains libres parce qu'il a plus de.
C'est son projet, de toute façon.
Oui, voilà, c'était sa patronne, mais là, du coup, il se retrouve tranquille et en plus, il a un ordre de mission qui lui laisse les mains libres pour aller retrouver le toucher qui est Solal et Sofena. Donc là, il va commencer à remonter la piste pour essayer de les retrouver. Et entre-temps, on a un nouvel ambassadeur.
Oui, qui est nommé donc à la place de Lubado. Donc on a aussi le point de vue de Goubado, son remplaçant.
Gabado.
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 Gabado, pardon. Pourquoi
Voilà.
Gouba? Je sais pas. Gaba. Gabado. Et donc lui, d'abord, on le retrouve dans les abysses.
Oui, avant
Enfin,
qu'il
il
parte.
est juste avant qu'il parte, on apprend que c'est un jeune poisson-crâne qui n'est jamais allé à la surface.
Non.
C'est le premier de sa promo, et donc on l'a choisi pour devenir ambassadeur abysséen à la surface. Et donc,
Il est très content.
il est très très content, très curieux, très ouvert, ce qui dénote a priori chez son peuple qui sont plutôt
Bah, réservé, ouais.
renfermés. Ouais.
Puis en plus, on nous dit qu'ils sont très lents à la détente, que toutes les décisions, ça met genre 30 ans à être pris. Donc, oui. Oui, d'ailleurs, on lui fait remarquer, comme il va à la surface, c'est, il a des clignotements un peu frénétiques, on va dire, bah, quand même, un peu de tenue et tout, t'es un ambassadeur, et lui, il est là, bof. Mais après, par contre, je trouve que là, c'est pareil, on nous dit direct, parce que donc, il va monter à la surface. Et en fait, dès le départ, on nous dit clairement, et lui, il le comprend aussi, qu'il a été mis là. Parce qu'il est manipulable. En fait, il est comme c'est un jeune poisson crâne. Ben en gros, c'est l'Hydre Arca, je crois, qui l'a mis. L'Hydre Arca, qui est bah, le président des poissons crânes, je sais pas comment dire.
Oui, c'était je sais pas si c'est un président, mais en tout cas, c'est enfin, il y a des un conseil, ça doit être un conseil de grand
Oui, je crois que c'est
ouais.
ça, ouais.
Enfin
Et
bref,
du
voilà,
coup,
j'ai oublié un
ils
truc.
l'ont choisi. Et bon, dès le départ, on nous dit qu'en gros, ils l'ont mis là parce que il est plus facile à manipuler, etc. Et
Ce qui oui,
Gabado.
ce qui va s'avérer vrai, soit en négatif. Enfin, du coup, on le manipulable, mais dès qu'il arrive à la surface, on sent un peu cette candeur, cette naïveté, il découvre tout pour la première fois
Oui, bah
et
oui, lui il est trop content et puis et bon bah le problème c'est qu'il va apprendre la vie quoi.
à la
Voilà, un
dure,
petit peu.
mais
Mais bon voilà, du coup on nous introduit ce nouveau personnage et après on va revenir du côté de l'Arcane Aurail. L'Arcane Aurail qui est le train en fait qu'ont emprunté Sofena et Solal pour fuir vers le nord et rejoindre la maison de leur cousin. Et sauf que dans le train, malheureusement, qui va les retrouver?
Bah, ils se font reconnaître par les passagers et surtout ils vont se faire intercepter par les officiers du car, dont Magnus, le fiancé de Soph. Et donc elle va à nouveau refuser de lui livrer Solal. Elle sait très bien le sort qui est réservé au toucher et elle est persuadée que Solal est différent. parce qu'il a des réactions différentes. Elle sent que son frère est toujours là, quelque part
Oui,
derrière.
qui perçoit son environnement, alors que normalement c'est pas le cas, un toucher vraiment, c'est voilà, vous le croisez en gros, il a la bave aux lèvres, il perçoit pas du tout que vous êtes là ou pas, alors que là, visiblement, il a des petites fulgurances quand même. Donc en tout cas, elle avait accroché à cette idée. Voilà. Et donc Nikolai Magnus, il va lui passer les menottes arcaniques à Solal, sauf que.
Bah, sauf que ça va pas. On sait que les touchés sont très instables au niveau des émotions et que, ouais, il faut pas trop les provoquer. Et donc en mettant les menottes et en sentant la détresse de sa sœur, bah, Solal en fait va exploser, tout
Ben voilà.
simplement. Et donc bah, faire exploser le train et le conducteur du train qui va à son tour exploser puisqu'il s'agissait d'un toucher. Donc voilà, un gros grosse détonation. Une grosse catastrophe ferroviaire, je sais plus combien de centaines de morts.
Ouais, là c'est gravissime hein, parce que
Oui.
là c'est bah en plus ils en parlent après partout, tout le monde a enfin tout le monde est au courant qu'il y a eu un problème avec l'Arcane Rail, sauf qu'au début on fait porter le chapeau bah, au toucher qui conduisait l'Arcane Rail. Et d'ailleurs dans cette partie du livre on nous fait aussi un portrait de Sof via les yeux de Nîmes un peu. Puisque du coup, Nîmes est un opérateur, donc c'est un pisteur en plus. Il est très très doué.
Ouais, un espion.
C'est vraiment, voilà, c'est un espion qui est hyper doué. Et en fait, c'est vrai que au début, on peut penser que Sof, elle est un peu. Bah, voilà, c'est la petite infirmière qui veut juste sauver son frère et tout. Mais finalement, elle est quand même réfléchie et elle sait bien réagir en fonction des situations, etc. Donc il se dit, ah ok, finalement, ça va peut-être pas être aussi facile que ce que je pensais.
Mais j'ai pas affaire à une bleue, elle a été formée à l'armée, elle sait
Ouais.
s'orienter. Bah, dans la nature, elle est débrouillarde.
Oui, voilà, franchement, moi j'ai bien aimé ce portrait parce que c'est vrai qu'à première vue, on se dit, bon, ok, ils vont pas s'en sortir. Enfin, franchement, le mec, c'est un opérateur de Lady là, jamais, enfin, il va pas se laisser distancer. Eh ben si, finalement, ça va être plus dur que prévu. Mais du coup, on va les laisser du côté de l'Arcane Rail et de la catastrophe ferroviaire. Il y a un petit passage avec Gabado, du coup, l'ambassadeur, qui découvre les joies de la vie sur Terre. Notamment, il va à des petites fêtes, on lui fait boire de la bière, etc. Donc,
Découvre la musique et l'alcool.
ah oui, il est très content. Et surtout, il va rencontrer un nouveau personnage qui est Garolf de Vise. Voilà. Et tu sais qui c'est, du coup?
Oui, alors il le rencontre à l'une de ses fêtes et ils vont se lier d'amitié. Et donc, alors au départ, il se présente comme un syndicaliste. Donc il va
Oui.
essayer de faire infuser ses idées à Gabado. En disant, ouais, mais regarde, la corporation Valois, les conditions de travail,
C'est le
c'est
fabricant d'armes, on le
inadmissible. Ouais.
rappelle.
C'est inadmissible. Moi, je connais des gens.
Ils se sont fait couper les mains. La pauvre, elle a plus de travail. Bon, bref,
Voilà, tu
il.
comprends, c'est ignoble, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, il va se laisser un peu bah, engrainer par ce discours-là. Et donc, lui, comme en tant qu'ambassadeur, il rencontre du beau monde, il sait que dans pas longtemps, il va pouvoir voir effectivement le directeur des entreprises Valois. Et il a déjà dans l'idée d'aller lui en toucher deux mots, quoi.
C'est ça. Donc voilà, il commence doucement à découvrir un peu le monde des humains. Donc c'est assez. Moi j'ai trouvé ça sympa de voir à travers ses yeux, parce que c'est vrai que demain t'arrives dans une autre civilisation, je pense que tu te méfies pas forcément, ou t'as pas les coutumes ni les usages des personnes. Donc lui il est vraiment. Ouais, il découvre les trucs, il est trop content quoi. C'est un scout un peu, il arrive,
Oui, c'est vrai.
il a une bonne foi à toute épreuve, enfin bref. Donc voilà, du coup lui il fait sa petite vie. Et après, on revient du coup du côté du Cénacle des Ombres. Le Cénacle des Ombres, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Eh bien, c'est finalement le groupement des opérateurs qui voilà qui travaillent donc au service de l'Edila, qui est l'équivalent du gouvernement au Grimark. Et donc, c'est le Cénacle des Ombres, il est dirigé par une opératrice nom de code Brume, et on apprend que c'est elle qui a un peu.
Bah, elle a recruté
Ouais,
tout le
elle
monde,
a
hein.
recruté tout le monde. Et ils sont pas tant que ça, parce qu'il y a Nîmes, il y a Brume, on apprend qu'il y a Aigle,
Ouais.
Couleuvre, Élixir, Forgeron,
Ouais, c'est ça.
c'est ça?
C'est ça, bravo. Bonne mémoire. Et la partie, enfin, cette partie-là dans le livre, elle est plutôt chouette parce qu'il y a tout un. Il y a une. Il y a une partie, donc là, en fait, il se retrouve à une réunion pour justement discuter ben, de la disparition de Nîmes. Et on nous introduit la musique.
Oui, c'est vrai que les assassins sont, les opérateurs sont sensibles aussi. On ne sait pas vraiment si c'est de la magie. On
Oh, c'est un
devine.
surinstinct, quoi.
Ouais, c'est un peu un sixième sens d'araignée
C'est ça, ouais.
qui les avertit en gros une seconde ou deux avant que un danger
Se
se
produisent.
produise. Voilà, ça les alerte et du coup ils ont un peu le temps de réagir. Ça va les mener aussi sur des pistes. Ça décèle aussi les mensonges. Enfin voilà, ça les avertit.
Oui, c'est une préscience en fait pour savoir s'il peut y avoir des problèmes. En tout cas, c'est bien utile quand t'es assassin, parce que c'est vrai que bon, bah tout le monde essaie de te planter, donc c'est mieux. Et le but de cette réunion, donc qui est dirigée donc par Viola Vespérine, qui est nom de code Brume. C'est de discuter de Nîmes, puisque Nîmes, donc son nom de code à lui c'est Spectre, ben, il a disparu, puisqu'il n'est pas présent à la réunion alors que normalement il devrait y être. Donc ils expliquent que ben, effectivement il a réussi à avoir un mandat plénipotentiaire d'intervention pour récupérer Solal, et du coup il est sans maître, il est complètement libre, donc la réunion ça a pour but de voter s'il lève son immunité et s'ils partent pour le retrouver et le tuer, quoi.
Ouais, c'est trop dangereux d'avoir un assassin en liberté,
C'est ça.
sans voilà, sans commanditaire derrière pour le superviser. Et en plus, bah, ils ont très bien compris que du coup l'assassinat
De sa
de
patronne.
sa patronne, de Marcan, c'est vraiment un message aussi qui leur adresse à eux,
Oui.
en mode bah, moi je peux me débarrasser de tout le monde, j'ai les mains libres maintenant. Enfin, voilà, je ne vous dois plus rien, quoi.
Ouais,
Clairement,
c'est ça.
il a coupé les ponts avec tout le monde.
C'est ça, et donc bah forcément, là, le enfin, ils votent tous pour la levée de l'immunité pour aller le tuer, quoi. Donc il y a ce passage voilà, qui nous introduit bien, je trouve, le Cénacle des Ombres et à quoi ça sert. Et après, on va se retrouver après on va dire, oui, après l'accident de l'Arcane Aurail, on se retrouve en fait, alors on retrouve finalement Nîmes, qui est bah, dans la maison de Sanders, qui est le cousin de Soph et Solal.
Oui, qui arrive.
Ben, en fait, il arrive avant eux,
C'est
visiblement.
ça.
Donc, on ne sait pas si finalement, est-ce que Soph, elle a changé d'itinéraire et elle va pas venir. Enfin, bref.
S'ils ont survécu.
Oui, on apprend qu'ils ont survécu.
Ouais, a priori.
Voilà. Mais par contre, Soph, elle en a gros sur la patate parce qu'il y a quelqu'un qui est mort.
Oui. Bah, Magnus, Nicolas, ils sont fiancés. Enfin, elle a survécu, mais il était trop proche de l'explosion pour qu'il ait pu s'en sortir.
C'est ça. Donc,
Enfin, ce qu'elle croit.
Mais c'est vrai que oui, du coup, enfin, elle l'a sur la conscience, quoi.
Oui, elle sait que c'est à cause d'elle. Elle a emmené son frère sans supervision dans un train avec des centaines de personnes. Il a explosé. Bon, bah, c'est de sa faute, quoi.
Donc, elle est là, elle se dit, bon, bah, de toute façon, maintenant, il n'y a que mon frère et moi, donc continuons. Donc, finalement, ils vont arriver à la ferme de Sanders, ils vont la trouver. Alors, vide, oui et non, parce qu'au final, Sanders, le cousin, n'est pas là. Mais il y a Nîmes.
qui leur a préparé la popote,
Oui, en plus,
fait un petit feu.
ben c'est ça. En fait, Nîmes, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit, mais dans la description du personnage, donc déjà, il a toujours une espèce de un manteau violet. Donc, enfin, oui, violet. Donc, moi, j'imagine un peu le truc à queue de pie, tu sais, un peu. C'est
Oui.
un dandy, quoi. C'est clairement un dandy. Et donc, il les attend, et il est pas maniéré, mais il est très poli. Donc, il les agresse pas, il les invite à manger parce que, bah, effectivement, ils ont fait une longue marche, donc bah, ils crèvent la dalle. Donc, ils mangent et il commence à leur dire qu'il ne va pas les arrêter. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de discuter plus parce qu'en fait, il y a une attaque d'orques à la maison. Donc, là, bah, du coup, c'est un peu le branle-bas de combat. Ils sont obligés de se défendre parce que la maison, elle est attaquée. Surtout, Nîmes se fait blesser.
Oui, parce que les orques arrivent bah voilà, à les arrêter malgré l'opposition de Nîmes qui arrive en flinguant, je crois.
Oui.
Et Soph qui prend un pistolet et qui arrive aussi à en blesser certains, mais ils se font prendre.
Là, c'est pareil, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. En plus, à part les orques qu'on a entreaperçus en fait dans la ville de Mirvald, on ne sait pas comment sont les orques du coup dans les Hurleuses.
Ouais, ils font même peur.
Ouais.
Enfin voilà, personne ne sait vraiment comment ils fonctionnent, comment ils vivent, quels sont leurs modes de vie. Et puis on sait qu'il y a des tensions entre les humains et les orques au niveau de la frontière, que y a des exactions entre les uns et les autres. Donc d'un côté, donc au nord effectivement, ça se passe pas très bien entre les humains et les orques. Au sud non plus, entre le Grimmark et la Tovki. Donc ouais, les frontières,
Oui,
on sent que c'est un peu tendu.
c'est tendu, oui.
Et donc arrive sur ces entrefaits, Soph et Solal, c'était pas du tout le plan. Et Nîmes, pour lequel bah, on ne sait pas non plus ce qu'il prévoit de faire. Donc Nîmes a réussi à rattraper Soph et Solal, mais on se doute aussi que bah, les assassins arrivent derrière.
C'est
Donc
ça.
ça va être un peu
Ouais, là on se dit,
deux
oulala, ça commence à chauffer
joyeux
un peu en
mélanges.
France. Ouais. Donc après, on a une petite aparté, enfin, on a toujours des passages qui sont coupés sur comment Gabado, donc l'ambassadeur des Abysses, se débrouille dans le monde des humains. Donc on nous dit qu'il a deux militaires qui lui ont associé, enfin, qui lui ont été associés pour sa garde rapprochée, qui sont.
Alboselbe et Oeselbe, c'est pas ça?
Ouais, si, parce que en gros, oui, c'est pareil, on nous dit que les. Ils n'ont pas de nom de famille, en fait. Le Do, c'est pour ambassadeur, et le Selb, c'est pour quand tu es
Garde, je crois.
garde. Et du coup, il y a
Ouais.
toujours un mot derrière pour expliciter ta fonction. Et on nous dit tout de suite que c'est deux militaires qui étaient gênants pour la hiérarchie et globalement pour la fédération abysséenne. Donc bah là, c'est pareil. Donc lui, il sait déjà que c'est un pantin. Et en plus, on lui colle deux militaires qui étaient gênants. Donc là, il se dit, ouais, bon, ok, en fait, je suis une grosse farce. Donc ça, il le prend un petit peu mal,
Oui,
mais
surtout
voilà.
que, hormis assister à des réunions, des bals et tout ça, en
Oui, il
fait,
peut
il
pas
a aucune
sortir.
mission,
Non.
quelle qu'elle soit, en fait.
Non, non, il est vraiment là juste pour maintenir une courtoisie de façade avec le Grimark. Donc, il continue quand même d'avoir des discussions avec Garolf de Vise, qui, lentement mais sûrement, essaie d'être son ami au final. Donc,
Oui.
globalement, c'est ça. Donc, du coup, on a voilà Gabado qui découvre un peu comment marche la race humaine, etc. Et on revient en fait sur Nîmes, Soph et Solal, et on rencontre un nouveau personnage qui est
Domka,
Domkar.
qui va être un personnage important, clairement, de l'histoire. C'est, alors, ils appellent ça le champion de sang de la tribu de la lance brisée.
Ah là là.
En gros, le guerrier suprême
Ouais.
de cette tribu-là. Et donc, Soph se réveille dans une espèce de
Charrette.
charrette, oui. Avec Solal et Nîmes inconscients, et elle va réussir à convaincre Domka de la laisser soigner les orques qui ont été blessés. Et comme Domka, c'est pas non plus l'orque, on va dire, auquel elle s'attendait, dans le sens sauvage.
Oui.
Voilà, on sait qu'il a fait il parle la langue commune, il a fait
Oui.
des études dans une université
Ouais.
humaine, etc.
Oui, parce qu'on dit que il lui explique d'ailleurs que quand tu es dirigeant en fait orque, donc c'est-à-dire que tu as toute ta tribu à gérer, bah c'est normal que tu ailles à l'université pour prendre des cours de tactique militaire, etc., apprendre les langues et tout. Et comme il y a peu d'informations, comme tu l'as dit, sur les orchidiens, en fait, sauf elle s'attendait vraiment à découvrir des barbares. Donc elle est choquée de voir qu'il s'exprime très bien, qu'il est au courant de plein de choses. Donc voilà, finalement, elle arrive à soigner les orques, parce que sinon, ils ne seraient pas arrivés vivants jusqu'à l'ambule.
Oui.
L'ambule qui est
Alors, leur campement
ce
slash moyen de
gros
transport,
navire.
ouais, un navire en bois sur roue qui fonctionne un peu au blizzard. Enfin,
Au
il se
vent,
voilà,
ouais.
ouais.
Ouais, ça fait vraiment des.
Qui traverse les steppes.
Roulant.
Et d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé cette. Après, j'ai fait des recherches. Adrien Thomas, a priori, il a un parcours de biologiste. Et je trouve que du coup, ça se ressent vachement dans le livre, avec déjà tout ce qu'on a. Distiller comme information sur voilà les poissons, la nature de la magie, les insectes. Et là, on apprend que les orques, que nous on s'imaginait effectivement, on dit qu'ils ont la peau verte et qu'on s'imaginait en personnage de WoW fantasy de base, en fait, non, ils ont un petit truc en plus, c'est qu'ils se rapprochent plus davantage du végétal que de l'animal. Leur sang, c'est de la sève, enfin bref, voilà ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est très original, je trouve, d'avoir su mêler ça.
Oui, ça c'était cool, alors que alors ça c'est vrai que je t'en avais parlé, mais du coup les ambules, donc qui sont les navires sur roues, Ça, pour le coup, moi, je l'avais déjà lu dans la saga Yuuzhan. Donc, je me suis dit, ok, en plus, la plaine s'appelle aussi, je crois que c'est, je sais pas si c'est les hurleuses ou la grande dévoreuse, mais c'est un peu le même principe, sauf que dans Yuuzhan, c'est un nom de grandes herbes, alors que là, du coup, c'est de la glace. Donc, ça, j'avoue que ça m'a un peu moins surprise, mais ça va bien quand même avec l'univers des orchidiens et tout, donc j'ai quand même trouvé ça chouette. Et j'ai bien aimé aussi le fait que. Enfin, il y a vraiment voilà, d'esprit de tribu comme on se l'imagine, avec comme on verrait, je sais pas, les. Pas les Indiens, mais.
Ouais, si, il y a un peu de ça, ouais.
Oui, voilà. Donc.
Oui, des nomades,
C'est ça.
même les, ouais, tout ce qui est ouais, civilisation comme ça, oui, un peu nomade mongol, ça pourrait marcher, amérindien, oui, effectivement, les Inuits, ça pourrait complètement marcher. Et du coup, aussi, je me suis demandé si c'était fait exprès ou pas, parce que finalement, ils auraient pu, l'auteur, il aurait pu laisser juste le terme de orque, mais l'alliance
Oui.
avec le végétal, je me suis dit, est-ce que tu vois, orchidée,
Oui,
orchidien?
je me suis dit pareil.
Ça a peut-être joué aussi.
Ouais, bah ça permet aussi de trancher avec les orques qu'on connaît déjà dans la littérature fantasy. Enfin, c'est pas nouveau. Et là, du coup, de plus, comme tu dis, associé au monde végétal. Mais moi, je l'ai vu comme ça. Enfin, je l'ai
Ouais,
compris comme ça
ok.
aussi. Et c'est vrai que ça tombe un peu sous le sens du coup quand tu connais la façon dont ils vivent, etc.
Ouais.
Très en phase avec la nature, tout ça.
Carrément.
Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et donc effectivement, comme on disait, Soph, elle va soigner les orques, donc ça va quand même lui attirer la sympathie de Domka. Donc ça déjà c'est bien, parce que visiblement c'est pas gagné. Et on nous dit aussi, donc là on a un petit focus sur Magnus, qui en fait
Elle s'est vécu.
n'est pas mort.
Bon, il est quand
Et
même
ah oh, putain, ouais,
bien
il est amoché,
amoché. D'ailleurs, Vador.
hein.
Non?
Oui, non, alors moi ça m'a fait penser à. Ah, ça va pas me revenir.
Il a plus de jambes et il manque un bras.
Oui, mais du coup, putain, j'ai regardé une série, j'ai oublié le nom. Bah, Cyberpunk. Magnus, l'ex-fiancé de Soph, a survécu à la catastrophe ferroviaire, mais il a été amputé des deux jambes et du bras gauche. Donc on se dit, ok, il a survécu, mais comment ça va se passer? Donc ça, on nous dit, bon, déjà, il est vivant. Et pendant ce temps-là, il y a. Je sais plus pourquoi j'ai marqué interrogatoire du nain et du forgeron.
Ouais, bah les
Ah
deux
bah oui, du coup
opérateurs
ils vont
arrivent,
voir.
ouais, arrivent à Vérinal de là où le train a explosé.
Oui, c'est vrai. En fait, ils arrivent du coup à donc le nain Will et le forgeron. Ils arrivent à déduire qu'en fait Nîmes, il a 3 jours d'avance seulement. C'est pas énorme, mais en même temps, faut quand même rattraper la distance. Voilà, on sait que le Cénacle des Ombres est sur la piste de Nîmes
Et qui se rapproche.
et qui se rapproche. Et donc après, on revient du coup sur l'ambule des orques, où bah, c'est pareil, Nîmes, il doit un peu répondre de ses actes. Donc là, les orques lui demandent bah, qu'est-ce qu'il fout là, tout ça. Donc lui, il essaie de se vendre en disant qu'il peut être un atout, clairement, parce qu'il connaît tous les secrets de l'État, et qu'il pourrait faire tomber, pas tomber l'État, mais que ça pourrait leur permettre de négocier, par exemple, la cessation des incursions dans les Hurleuses, qui pose beaucoup de problèmes aux orques. Ou par exemple, bah, je sais pas, de sanctuariser les terres. Voilà, ce genre de choses. Et on retrouve du coup un personnage qu'on pensait ne pas avoir, qui est Sanders.
Et oui, finalement,
Le
le
cousin.
cousin.
Bizarre vieux, hein. Il l'appelle cousin,
Oui.
mais en fait c'est le frère de sa mère.
Ouais,
Enfin,
il
de
doit
leur
avoir
mère.
la cinquantaine, quoi, un truc comme ça.
Oui, voilà.
Oui. Et donc, bah oui, il est parti vivre chez les orques. Au final, il en avait marre. Il tenait une ferme arcanique. Donc, il récoltait, bah, on va dire, les particules de magie dans l'air.
Il est filtré.
Voilà, il les filtrait. Et il en a eu marre. Et donc il a suivi. Non, elle est venue à elle. Il y a une orque blessée qui est venue.
Bah, se réfugier dans sa
Ouais.
ferme.
Et
Et
puis.
oulala, il s'est passé des choses dans cette ferme.
Oui.
Et en fait, finalement, quand elle a dû repartir, bah, lui, il a dit, bah, est-ce que je peux venir? Donc, elle a intercédé en sa faveur, même si, bon, on comprend que voilà, les orques, ils aiment pas les humains, quoi. Enfin,
Oui, il est toujours en phase d'apprentissage. Il a 50 ans, mais il dort encore dans la tente des enfants.
Oui, c'est ça.
Et il doit encore, il n'a pas encore tous les médaillons qui feraient de lui
Un
un
adulte,
adulte.
voilà. Parce qu'on nous dit que le terme d'enfant, c'est pas par rapport à l'âge, mais par rapport aux épreuves que tu passes. Donc lui, il vit encore avec les bébés, quoi. Et ça fait 4 ans qu'il est avec les orques, dans la tribu des orques. Et
Donc oui, un peu. Je trouve que cette, il y a vraiment, on change autant la première partie du livre, c'était l'évasion. On
oui.
sauve Solal et puis après la poursuite avec Nîmes et le Cénacle. Et là, on rentre dans une phase où on découvre le mode de vie des orques.
C'est
C'est
ça.
beaucoup plus centré autour, sauf Solal et des hurleuses, quoi.
Oui, voilà, parce que on va apprendre plein de choses du coup sur le clan des orques. Donc le fait qu'ils soient plutôt opposés à la science, ils sont très sur les croyances de la nature.
Oui, c'est vraiment un mode de vie, enfin, en tout cas une religion et chamanique, médecine également. Non, médecine, sont plus guérisseurs avec les plantes. Tout est tourné de toute façon autour de la nature et.
C'est ça. Et en plus, bah ça, on va l'apprendre, mais du coup, c'est là que Soph va apprendre que l'arcane, pour les orques, c'est pas, comment dire, c'est pas de la magie, mais en fait, c'est un être à part entière, un être vivant qui serait ancien et puissant. Et en fait, l'arcanium, ça serait sa manifestation physique. Et on nous dit aussi que l'arcane est caché dans un sanctuaire. Donc, qui serait bah, probablement dans les hurleuses, et que bah, finalement les orques le protègent.
Oui, ça aurait été un peu leur mission
Oui,
de toujours, quoi. Le
voilà,
peuple orque
c'est ça.
protège l'arcane dans les hurleuses.
Exactement. Et pendant ce temps-là, donc on revient sur notre cher Gabado, qui fait une petite fête et qui va rencontrer Aloxus Valois, qui est donc le dirigeant des. Non, pas de la confrérie.
Corporation.
La corporation Valois, qui est bah, le fournisseur d'armes. Et sauf que bah, la fête va pas très bien se passer parce que bah, il va être tué. Et en fait, on apprend que c'est Xerold. Non, si c'est
Non,
ça.
c'est Garolf.
Garolf, oui, qui a fait un coup monté pour faire rentrer des armes à la fête sous couvert de sceaux de
Oui.
Gabado.
En fait, il a demandé si Garolf a demandé à Gaba s'il pouvait donc apporter un cadeau à Aloxus Valois. Et notre petit poisson crâne tout naïf disait, oh, c'est peut-être des feux d'artifice, ça peut
Oui,
être
il est trop niais, quoi.
du théâtre pour lui taper, enfin voilà, une satire disant,
Oui,
oui, c'est pas bien ce que tu fais et tout.
oui.
Et en fait, non, non, c'est des hommes en armes voilà, qui arrivent et qui butent tout le monde.
C'est ça. Donc, du coup, Aloxus Valois bah, se fait buter. Et bah, Gabado, le problème, c'est que c'est lui qui a signé le papier pour faire rentrer les armes. Donc, il est dans la sauce, l'ambassadeur. Oui, il va falloir qu'il s'occupe de gérer ça. D'ailleurs, on nous explique qu'en fait, la mort d'Aloxus, donc ça va perturber les commandes d'armes et globalement l'entretien de l'arsenal grimois. Et qu'en fait, il devait remplacer la duchesse de Marcan, d'ailleurs, qui était morte quelques temps avant. Et finalement, bah, ça fait un trou au gouvernement. Donc, on se dit, encore une manipulation pour qu'il n'y ait personne pour s'occuper de ça, quoi. Et c'est aussi à ce moment-là que Gabado, il va un peu prendre. Comment dire? Il va se dire, ouais, en fait, j'en ai trop marre d'être la grosse victime. Et il va retrouver, je sais plus si c'est Garolf. Non, il veut retrouver Garolf et pour ça, il va demander l'aide de Brume. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, parce il est en train de fouiller dans les
Dans les
papiers de
papiers,
son
ouais.
prédécesseur et plusieurs fois, donc il a vu la mention du nom de l'opératrice et donc il va demander à ses gardes effectivement de la retrouver
Voilà, pour qu'elle s'occupe de
pour qu'elle lui apporte
Garolf.
Garolf sur un plateau.
Donc après, pendant ce temps-là, on va avoir une grosse partie sur le conseil d'Aïkaloun, qui est la réunion des
Des
tribus
tribus.
des orques, parce qu'ils doivent discuter de qu'est-ce qu'ils font de Nîmes et des personnes qu'ils ont capturées. On apprend aussi à ce moment-là qu'en fait Nîmes, parce qu'il passe quand même pas mal de temps du coup dans le camp des orques, on apprend que Nîmes finalement il connaît plutôt bien la région et qu'il a plein de caches
Oui,
pour
c'est pas la
son.
première fois
Voilà.
qu'il vient dans les hurleuses
C'est
et
ça.
il connaît très bien le terrain, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. Et donc il a plein de caches, plein d'armes, et il sait très bien où il est et il surveille. Enfin, il cherche pas à s'enfuir. Il va surveiller en fait l'arrivée des autres membres du Cénacle.
C'est ça. Et d'ailleurs, il va tuer Forgeron, c'est
Oui.
avec sa lunette, pour justement, en fait, bah, il veut absolument qu'il le poursuive. C'est ça. Du coup, on comprend pas trop l'intérêt. On se dit, mais pourquoi il veut absolument qu'il poursuive Nîmes, en fait. Enfin, moi, au début, je comprenais pas, quoi.
Oui, pourquoi il fait ça? Enfin, oui. Pourquoi
Bah,
pas se cacher? Pourquoi on a vraiment la sensation qu'il veut les attirer encore plus à lui?
c'est ça. Donc, on comprend pas trop. Mais je sais pas si tu te souviens du personnage de Baer Syrabuse,
Ah, le général?
le général, où du coup finalement Xerold va le faire chanter parce que c'est lui qui avait signé une lettre d'assassinat de la fille de Aloxus Valois.
Oui.
qui devait succéder aux industries, et comme lui, il voulait se les prendre pour lui.
C'est vrai qu'on n'a pas présenté Xerold Calcius.
Ouais,
ça fait, il fait partie de l'entourage qui va graviter autour de Gabado. En gros, on apprend que c'est un opposant à Garol de Vis. Enfin, en tout cas, il ne s'aime pas, ça c'est sûr.
Oui, oui.
Et c'est un intrigant politique.
Ben, c'est ça. En plus, c'est celui qui est coloré.
Ouais,
ouais, il est toujours fringué, genre c'est Harlequin.
Oui,
oui. Oui, il détonne un peu en plus.
Oui, oui. Et toujours, il a des goûts très particuliers en termes de vêtements. Ben, de colorimétrie.
Ça. Exactement. Mais par contre, oui, c'est un fin stratège et du coup, il va demander à Syrabuse de voter contre. Aux prochaines mentions de Lydilla, mais contre quoi, on ne sait pas.
On ne sait pas encore.
On ne sait pas. Et en fait, on l'apprend assez vite parce que il y a soit envoyer des fusillés à la frontière Tofkienne pour défendre, ou faire une déclaration de guerre aux hurleuses. Ça va, deux choix hyper sympas pour le Greymark.
Oui, on sent bien que la guerre approche et de plus en plus imminente.
Tout à fait. Et puis, d'un autre côté, on a quand même le pistage de Niamb, Will et Elixir, donc qui sont les trois derniers du Cénacle qui continuent. On sait que Elixir, il a perdu des fioles qui apparemment pourraient raser la moitié de la maison, que c'est super bizarre. On se dit, mais attends, mais qui c'est qui est en train de leur fourrer des trucs et tout. En fait, moi, j'aime bien dans les livres parce que tu sais jamais à qui tu peux te fier. Tu crois que c'est telle personne et en fait, au dernier moment, pas du tout.
Ouais.
Donc ça, par contre, Adrien Thomas, il a vraiment bien écrit à ce niveau-là, je trouve. Il y a un moment où on va apprendre que Solal, qui était journaliste, on ne l'a pas dit au début, mais qu'en fait, il a volé des documents aux chercheurs du
Xaoticum. Les chercheurs qui travaillent autour de l'arcane.
C'est ça. Et que finalement, il s'est fait choper et que c'est Niamb. Donc,
Niambé, je ne sais pas.
Ouais, peut-être Niambé.
Oui,
qui finalement l'a tasé.
Oui, enfin, c'est ça. En fait, on apprend que les chercheurs du Xaoticum ont réussi à construire une machine capable de transformer en toucher les opposants politiques.
Voilà. Et qu'ils étaient sur ça comme mission, en fait, avec Magnus.
Oui.
Et est-ce que c'est là qu'on apprend d'ailleurs que Magnus, finalement, il venait pas pour embarquer Solal, mais pour récupérer sa chemise?
Oui, c'est ça.
C'est là, hein?
Ouais, ouais.
Oui, oui, et qu'en fait, du coup, c'est une grosse méprise depuis le départ. Sof était persuadé que Magnus, qui était capitaine du car, venait arrêter Solal, alors qu'en fait, pas du tout, ils étaient ensemble, ils complotaient pour faire tomber l'État, en gros. J'avoue que ça, je m'y attendais pas.
Moi non plus, ça vient très tard.
Ouais.
Autant on sent venir certaines choses qui sont comme notamment la montée des tensions, la guerre et tout ça, on sent bien qu'il va y avoir un boom. Mais... En mettant en grosse surprise. Mais encore, oui, ça, on le voit pas venir. C'est pas juste le capitaine du car fiancé transi à la poursuite de sa femme, mais c'est un peu plus que ça.
Ouais, finalement, c'est un peu plus. Et donc, on apprend ça qui est quand même, moi, je trouve un gros morceau parce qu'on dit, ah, finalement, lui, il était déjà au courant de plein de trucs, alors que Sof, il n'était pas du tout. Et on apprend finalement à quoi va servir le vote contre de Syrabuse. Ça, on savait que c'était pour déclarer la guerre aux hurleuses. Par contre, au conseil d'Aïkaloun, eux aussi, ils font un vote pour savoir s'ils vont rentrer en guerre avec le Greymark. Ils votent contre. Donc on se dit, cool, tu vois, ils vont...
Oui, les orques ne veulent pas entrer en guerre avec le Greymark.
C'est ça. Sauf que, que se passe-t-il?
Eh ben, il y a une des piliers...
des anciennes.
Ouais, des anciennes des orques qui s'appelle Mirae.
Ouais.
Donc, qui était l'ancienne des secrets, donc c'est elle qui communiquait avec l'arcane. D'ailleurs, elle avait pris un peu Solal sous son aile, lui avait un peu montré la voie pour communiquer avec l'arcane. Bref, cette personnage-là, Mirae, on apprend que, à un moment, elle sort de la tente des délibérations d'Alcaïoun. Avec la tribu des orques, et puis elle va prendre l'air parce que, comme il parle chimiquement, elle en a plein la tête. Et en fait, elle se fait tuer. Et c'est d'une flèche dans le cœur, et c'est ce qui va un peu lancer les hostilités.
En fait, c'est quasi simultanément qu'elle se fait buter et que.
Et que la tente explose, c'est vrai.
Oui, voilà, en fait, c'est en même temps. Et du coup, on se dit, ah ok, donc en fait, c'est le élixir du coup avec ses fioles explosives, donc qui est un opérateur du Cénacle des Ondes qui, en fait, a fait péter la totalité de
Oui, c'est un chimiste, oui.
Voilà. Donc on se dit, ah le bâtard, moi j'étais dégoûtée.
Bah oui, il dit, putain, ils sont arrivés, Niambe, voilà, elle a tiré sa flèche, l'autre il a tout fait péter, ils sont arrivés avant, enfin, voilà, ils ont retrouvé quoi.
Mais finalement, Nim, il va dire, en plus il va orienter, il va dire, bah ouais, je sais que c'est eux, ils me poursuivaient,
Ouais,
du coup,
venez, on va les chasser.
Voilà, c'est ça.
Il les récupère,
c'est ça.
Il les passe à tabac.
Elixir, il le bute. Et après, je me souviens plus qu'est-ce qui se passe. Oui, après, on revient encore sur...
Oui.
Il y a Xerold qui est encore en train de faire son foin. En fait, il avait fait un coup monté pour faire rentrer l'armée Tofken dans Mithrisias.
Ouais.
Grâce à un fonds de pension...
financé par les abysses.
Et qui finalement servait pas du tout à ce que ça devait... enfin, au truc originel. En fait, ça servait à financer le groupe des anarchistes.
Oui. Oui, parce que Garolf, vous l'aurez compris, se présente comme un syndicaliste, mais bon, c'est avant tout un anarchiste, un terroriste. Hein.
Voilà, c'est ça, exactement. Dans le même temps, du coup, Nim
disparaît.
Il disparaît de Aikaloun, de la protection des orques. Il fait quand même un petit bisou à Sof avant de partir.
C'est vrai.
Voilà, il y a un mini intérêt romantique dans le livre
ouais,
qui est
vraiment
ridicule. Hein. Parce que Sof ne sait toujours pas que Magnus est vivant.
Oui.
Voilà, personne lui a dit alors qu'ils le savent tous.
Oui.
Enfin,
vrai.
Nim le sait, parce que lui, il a enquêté à l'Arcanore, donc il le sait.
Oui, le Cénacle aussi.
Et Will aussi. Du coup, ça par contre, c'est bâtard. Ils l'ont pas dit, quoi.
Mais il y a plein de choses qu'ils disent pas au final.
Mais oui,
parce que Niambe, elle l'avoue très très tard.
Dans le deuxième.
Que, ouais,
dans le deuxième.
C'est elle qui a foudroyé Solal. Donc oui, Nim part d'Alcaïoun et de l'ambule sur lesquels ils sont. Et bah, c'est là qu'on comprend que bah, en fait, il s'est joué tout le monde.
Oui.
Que, enfin, celui qui a volé les fioles et tiré sur Mirae, c'est pas le Cénacle, c'est Nim.
C'est Nim.
Donc il a trahi tout le monde.
Alors là, j'avoue que moi, j'étais là, mais non. Parce qu'en plus, on sait toujours pas, en fait, quel est son but final. Mais on nous dit, en fait, parce que comme on est omniscient dans la lecture, il dit à plusieurs moments que tout se passe selon ses plans, que vraiment c'est comme ça que ça devait se passer et tout. Donc on se dit, ah ok, en fait le mec il a vraiment préparé son truc à fond quoi. Mais on sait toujours pas quelle est la finalité de ce pourquoi il fait tout ça en fait.
Mais oui. Mais Domka insiste bien sur le fait que bon, bah, même si c'est pas le, enfin la faute du Grimark, que c'est la faute de Nim, de l'assassin. Il a dit, bon, bah, le sang orc a été versé, et on ne peut pas passer au-dessus de l'affront. Donc, déclaration de la guerre aux humains. Et donc là, s'engage un peu la dernière partie du livre, qui est finalement très courte hein, par rapport aux autres.
Ouais.
C'est un peu la dernière, la dernière bataille. Où on a donc au niveau. Enfin, les humains et les orcs se retrouvent au niveau des hurleuses. Et donc, on a un combat qui va s'engager entre les deux. Et finalement, quelle va être l'issue de ce combat?
Et ben, l'issue du combat, moi j'ai noté surtout qu'à Vérinald, il y avait une embuscade avec les poissons crânes.
Ouais, bah c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, les poissons crânes, le peuple des abysses prend tout le monde à revers.
C'est ça.
Et ben, finalement, il domine tout le monde. Et du coup, la fin du livre, c'est environ une semaine après que la domination des abysses ait été signée. Donc en fait, le Grimark et la Tovki abdiquaient.
Ouais.
Et bah, c'est le drapeau noir des abysses qui flotte partout. Parce que, alors ça, par contre, j'ai trouvé ça, je me suis dit, ah, ok, ils viennent sous couvert de « oui, on est là, tout gentil et tout ». En fait, pas du tout. Et en fait, depuis le départ, Nim, il était du côté des poissons crânes.
Ouais, c'était pas un agent double, c'était un agent triple.
Mais oui, et ça faisait longtemps, visiblement.
Ouais, ouais voilà. Plusieurs années, ouais.
Nim, il explique qu'il a choisi de, entre guillemets, trahir les humains pour aller du côté des abysses parce que les humains ne sont pas faits pour détenir le pouvoir. Parce qu'ils sont pas capables de diriger avec sagesse.
Moi, sagesse. J'ai adoré ce dialogue. J'ai noté parmi mes favoris, c'est Gabado qui demande à Nim, effectivement, êtes-vous content d'avoir trahi votre propre espèce?
Oui.
Donc, il y a tout un dialogue comme ça autour de... Hyper marquant, je trouve, cette fin. Enfin, moi, j'ai jamais vu venir les poissons crânes.
Ah, moi non plus.
À aucun moment.
Non, c'est clair. C'est hyper bien amené. Et puis, c'est vrai qu'on comprend les motivations de Nim. On se dit que c'est un peu extrême, quand même, d'avoir dû buter tout un camp d'orques, de faire toutes ces machinations, etc. Et d'un côté, en fait, il est vraiment. Bah, c'est ce que je te disais. Moi, je trouve que c'est un idéaliste, quoi. Il a vraiment à cœur la paix dans son pays, et du coup, il se dit, bah, autant se remettre à une autre espèce qui sera plus sage pour diriger, Et même si j'ai fait des trucs pas cool, bah ok quoi.
Ouais, c'est au-dessus d'un simple contrat d'assassin.
C'est ça.
C'est vraiment là pour le coup.
C'est une conviction.
Pour... Ouais,
c'est une carrément. Conviction. Et la dernière partie, en fait, c'est un épilogue sur Solal qui se réveille de l'emprise de l'arcane.
Ouais.
Ce qui n'est jamais arrivé.
Non.
Voilà.
Il se réveille dans l'ambule avec Soph.
C'est ça. Alors, qu'as-tu pensé de ce premier tome?
J'ai trop. Enfin, vraiment, j'étais vraiment, comme je te disais, une super découverte de vaisseau d'arcane. Qu'est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai noté, bon, bah, en dehors, effectivement, du fait que j'ai adoré le mélange des genres. Je trouve que c'est vraiment la croisée entre fantasy, steampunk, science-fiction, cyber. Parce qu'il y a, bon, on verra dans le tome 2, on pourra en parler, mais du coup, Magnus, qui a perdu ses membres, il se fait améliorer.
Oui, bah, il a des prothèses neurotroniques, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais oui, il se fait poser des membres pour pouvoir remarcher.
Ouais, donc il y a toute cette question autour du transhumanisme et tout ça, donc ça, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé ce mélange des genres, je trouve que c'est bien fait, c'est bien dosé, que ça reste cohérent dans l'univers. Et non, moi j'ai vraiment bien aimé, ça m'a fait penser au début, je pensais à un univers un peu, alors moi je crois que ça part d'un bouquin, j'ai vu le film Mortal Engines,
oui,
où vraiment t'as ce truc déserté, avec les orages voilà, de mana, qui j'imaginais ça, et puis bah, les cités qui se protègent autour d'un dôme de verre, et en fait non, c'est un peu plus, c'est carrément plus que ça quoi.
Oui, et puis c'est vrai que ça, on l'avait dit l'année dernière quand j'avais lu le bouquin et du coup que je t'avais tanné après pour dire « Ah, attends, et qu'est-ce que j'en ai pensé, machin ?» C'est vrai que les toucher aussi, le fait que... Enfin, la magie, on a l'habitude dans la fantasy. Mais là, c'est vrai que du coup, j'ai trouvé ça cool, ça a changé de ce qu'on pouvait voir de d'habitude. En tout cas, moi, j'avais jamais lu de trucs comme ça.
Donc, oui, ça, j'ai un aspect ultra négatif, que t'accèdes à quelque chose de très qui est transcendant, qui est
Tu fais partie de tout quoi, mais en fait toi tu perds ta conscience dans le change, et puis en plus c'est normalement aléatoire, donc ouais, non, et puis j'ai bien aimé moi vraiment il est très doué pour les intrigues,
ouais,
franchement, pour le tissage des liens, enfin tu vois vraiment pas venir le truc, et ça j'ai trouvé ça cool d'être vraiment surprise, parce que des fois il y a des trucs tu dis allez c'est bon, je vois le truc venir, alors que là pas du tout. Et rien que pour ça, franchement, moi, je recommande. Hein.
Ouais, moi aussi. Pour le 1, oui, mais tu vois, on aura l'occasion d'en reparler du 2.
Oui.
Moi, ça m'a un peu dérangé. Donc ce truc d'intrigue-là, voilà, on en reparlera peut-être dans le second épisode, mais... Oui. Mais oui, en tout cas, ce premier, j'étais hypée de fou. Je voulais absolument lire le 2, ça, c'était sûr.
Et est-ce que du coup, il y a un personnage que tu as plus apprécié que les autres?
Sur le premier ou sur les deux mélangés?
Non, sur le premier.
Sur le premier. Ouais. En vrai, ils sont tous, on va dire, attachants à un certain degré. Enfin, il y a toujours quelque chose qui te rattache, qui les humanise à fond.
Oui.
Chacun d'entre eux, d'ailleurs. Mmh. Que ce soit orc, opérateur, poisson ou Soph. Toi, c'était quoi? Ça va peut-être m'aiguiller, faire mon choix finalement.
Pour le premier, moi j'aurais dit Soph.
Ok.
Parce que j'ai bien aimé la transition entre son caractère un peu sage, docile, elle aime bien les règles, et en fait elle sort complètement de sa zone de confort pour sauver son frère, et puis elle va vraiment au devant de l'aventure et elle se révèle un peu. Donc le personnage était bien écrit et du coup j'ai trouvé ça cool. Donc Soph pour le premier.
Ouais. Bah, moi je pense que je vais dire Gabado pour le premier.
Moi, pour le 2, je dirais.
C'est vrai?
Ouais, okay. Mais je comprends du coup.
Parce que, effectivement, attachant, touchant et naïf. Et je pense que c'est cette partie-là. Comme tu disais, c'est comme si toi, tu découvrais le monde des humains. Enfin,
oui, aussi, oui.
Voilà, tu vois.
À travers ses yeux de poisson.
Ouais, je dirais lui pour le premier.
Bon, et ben on espère en tout cas que l'épisode, donc, premier tome de Vaisseau d'Arcane, Les Hurleuses, vous a plu. Et puis on va se retrouver pour le deuxième dans le prochain épisode.
À bientôt.
Salut.